Et en fait, Denis Troche a bien résumé ça. C'est une citation que Christophe Kuchli, qui est avec moi dans Vue du banc, a récupéré en bossant sur je ne sais plus quel livre. Mais donc, Denis Troche qui parle de ce match-là et qui dit « Le match retour PSG-Real avec un scénario tout à fait étonnant, mais qui, quelque part, était envisagé. On avait même pensé à la possibilité de faire l'impensable, c'est-à-dire éliminer le Real. Heureusement, ça arrive très souvent de faire des matchs références, et là, on se dit qu'on est intouchable, et c'est là que ça devient intéressant. Vous réussissez tout ce que vous tentez, les joueurs sont au diapason, c'est ce qu'on appelle le flow, une fluidité totale dans les actions dont on ne sait pas combien de temps ça dure, comment ça se passe. On ne se pose même pas de questions, car l'intuition donne la solution. » On n'est plus dans l'action ou de la réaction, mais dans une anticipation fluide qui ne laisse aucune place à l'échec. Ça se fait tellement naturellement qu'on voit un ou deux coups à l'avance. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on s'en souvient. Et je pense que ça résume parfaitement ce PSG Real Madrid.
Il n'y a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football.
Eh bah, bien, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui, mon gars, du football, là, ce qui s'y passe, sur ton nerf.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 21e épisode de Soyez Sympa, rejoué. Aujourd'hui, on se replonge dans l'un des matchs les plus fous de l'histoire du Paris Saint-Germain. Nous allons bien évidemment rejouer le quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA 92-93 entre le PSG et le grand Real Madrid. Le temps des exploits français en Coupe d'Europe paraît bien loin aujourd'hui et c'est pourquoi nous allons nous plonger avec délectation dans cette qualification parisienne. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs pour refaire le match.
Et trois supporters du PSG.
Exactement, ce qui est quand même assez rare.
Tu veux dire que c'est rare d'être supporter du PSG ou pour une fois enfin que je ne serais pas tout seul à défendre mon club et en même temps lui taper un peu, ça fait du bien.
C'est vrai. Alors, fondateur du studio de podcast Bababam, il est né en 82 et est la preuve vivante que le PSG avait une histoire et des supporters avant 2011, n'en déplaise à Zlatan Ibrahimovic. Bonjour Pierre Orlac.
Bonjour Johan.
Numéro 10 de Genside, il est sorti du confinement avec la même tignasse que David Ginola. Il avait tellement, mais tellement hâte qu'on rejoue ce match. Bonjour Yannick Mercieris.
Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai coupé les cheveux, voilà, pour que tu puisses te figurer ma personne pendant que tu écoutes. Voilà.
Magnifique. Analyste vidéo et podcasteur, il a sûrement séquencé les plus belles et tranchantes interventions d'un certain Patrick Colletter lors de ce match. Bonjour Florent Tognutti.
Salut Johan, salut à tous.
Vous le connaissez pour ses écrits dans SoFoot et Nice Matin, vous le suivez sans doute sur Twitter où il dégaine les plus belles punchlines de la planète foot. Il est supporter parisien et le créateur du fameux dommage Eddy. Bonjour Mathieu Faure.
Tu me dois une royalties pour le dommage Eddy, ce que tu as utilisé sans mon approbation, mais bonjour quand même.
Et notre hôte du jour, alors ce soir tu l'as dit, nous allons parler d'un des plus grands matchs de l'histoire du football français, mais à son grand désarroi, nous ne passerons pas l'heure sur une épopée bourguignonne. Qu'importe, comme Lilian Lasland un soir de mars 97, ce journaliste de conviction va s'élever au-dessus de la mêlée, nous glisser que la JA était aussi en demi en 93, puis se rappeler que le foot c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11, et à la fin c'est toujours du PSG dont on parle. Bonjour Yann Crochet.
Merci Yannick, magnifique. Alors messieurs, on va donc attaquer cet épisode avec un peu de contexte et rappeler le scénario du match aller, car finalement ça avait très très mal débuté pour le Paris Saint-Germain. Alors juste avant, peut-être même de parler du match aller, Yannick, on peut rappeler, parce qu'on se dit PSG Real aujourd'hui c'est une affiche de Ligue des Champions. Là, c'est une affiche de Coupe de l'UEFA et rappeler combien cette compétition était relevée et accueillait de très grands clubs à cette période-là.
Alors, si tu essayes de me faire dire que les compétitions européennes de 93, c'était nul en C1 et magnifique en C3, je te le dis, effectivement, le niveau de C1, peut-être parce qu'un club français l'a gagné, c'était pas ouf. Non, mais au-delà de la vanne et de la formule de la C1 de l'époque, c'est que la C3 comportait plus de grands clubs, tout simplement parce qu'en C1, nous, pour nous, la C1, c'est les meilleurs clubs européens, sauf qu'en C1, à l'époque, c'est le vrai nom, Coupe des clubs champions, donc t'as que des clubs champions. Donc, tu as un représentant français, un italien, un espagnol, un allemand, etc. etc. Donc, forcément, quand je sais pas cette année-là qui est champion d'Espagne, ça doit être le Barça, du coup, si c'est pas le Real. Eh ben, du coup, tu as les plus gros. En Italie, tu as la Juve, Milan, Inter, etc. etc. Donc, tu as toujours plus de clubs dans cette C3. Et c'est pour ça que quand tu réfléchis, quand tu regardes les compétitions européennes d'avant, avant la Formule Ligue des Champions qui consacre les gros clubs et les gros coefficients, ben c'était cette C3 notamment avec ce format aller-retour qui était la plus relevée parce que tirage quasi intégral et surtout ben, beaucoup plus de clubs par pays. Donc c'était la plus dure des compétitions en 93.
Un deuxième point de contexte aussi, c'est rappeler le parcours du PSG en Coupe d'Europe avant cette édition-là. On avait donc un quart de finale de C2 en 82-83 qui était le parcours le plus intéressant jusque-là du Paris Saint-Germain. On avait des 16e de l'UEFA, un 8e également de C2 également. Mais c'est vraiment cette saison-là que le PSG fait son plus beau parcours européen, en tout cas dans la compétition la plus relevée. On reparle rapidement du match aller. Le Real Madrid s'impose 3-1 face au PSG.
Je ne sais pas si tu parleras après, mais c'est le premier match européen de l'ère Canal aussi.
Ouais, exactement.
Ok, donc c'est ça, c'est ce qu'il faudra dire. Du coup, c'est ce qui va lancer aussi ce PSG un peu bling-bling, parce qu'avant, enfin, il a toujours été un peu bling-bling par son histoire, mais là, c'est Canal est propriétaire, et du coup, c'est la première fois que Canal et ses sous se mettent à niveau des autres grands clubs et affichent ses ambitions aussi.
Donc je le disais, le Real s'impose 3-1 face au PSG. Le Real qui fait un très gros match avec un très gros pressing sur les joueurs parisiens qui paniquent un peu, hein, qui peinent à sortir correctement le ballon. Il y a pas mal d'erreurs individuelles, de dégagements en catastrophe, en corner ou en touche. On a Lama qui passe à côté de son match notamment. Le PSG est mangé dans l'agressivité et dans les duels. Il y a un seul joueur, Mathieu, qui est à peu près au niveau, et même plutôt bien au niveau d'une telle rencontre, c'est David Ginola.
Bah, c'est quelqu'un de toute façon qui brillait souvent lors des grosses affiches européennes, notamment en Espagne, on le verra plus tard, parce que un an plus tard, ils vont gagner au Real Madrid en quart encore de C2 cette fois, il est extraordinaire. Bon, la double confrontation contre le Barça en 95, on n'en parle pas, mais oui, Ginola, c'est vraiment le mec des grosses affiches, le mec des Coupes d'Europe et à l'aller. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui marque, il doit permettre de revenir à 2-1. Mais oui, c'est le seul qui est au niveau et donc il fait un peu peur. C'est le seul mec qui fait peur clairement au Real avant le match retour. Quoi.
Et je ne sais pas si c'est au match aller ou si c'est suite au match retour où il est surnommé El Magnifico par la presse espagnole. Et du coup, ça va lui rester un peu ce surnom. Et parce qu'il est beau gosse et surtout parce qu'il a mis ce super but, etc. Je ne sais plus si c'est à l'aller ou après le retour qui est surnommé comme ça.
Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le retour, le match au Bernabéu de l'année précédente où vraiment il est sur son côté gauche. Et d'ailleurs, c'est lui qui délivre le caviar pour Rouya pour le seul but du match. Où vraiment sur le côté, mais il les ouvre en deux pendant 90 minutes où ils font un match énorme. Bon, le Real est encore moins fort et puis le PSG a moins ce complexe d'infériorité qu'ils avaient peut-être en 93, mais ça va être la première équipe à gagner au Bernabéu en Coupe d'Europe, la première équipe française, pardon, à gagner au Bernabéu en Coupe d'Europe un an plus tard. Et je pense que cette double confrontation de 93, elle leur sert aussi à ça, à franchir des étapes.
Bah, c'est ce qu'ils disent en plus quand ils en parlent, quand ils arrivent, déjà ils se font chambrer, parce que le PSG c'est un tout petit club à l'époque, hein. Ils n'ont absolument rien gagné.
Le match retour, c'est le 28e match européen de l'histoire du club.
Voilà, donc c'est rien, c'est que dalle. Je pense qu'il y a des joueurs au Real qui avaient déjà 28 matchs à eux tout seuls, largement. Et en fait, quand ils arrivent, ils expliquent que déjà, ils sont hyper contents de s'entraîner sur la pelouse du Bernabéu. C'est des gamins, en fait, un peu. Ils sont là, ils se disent « Putain, c'est incroyable, on va faire ce match-là ». Et à la fin du match, bon, ils perdent, hein, ils perdent 3-1. Et c'est à la fin de ce match-là où les joueurs se disent « Ah bah finalement, on a peut-être le niveau. Peut-être ». C'est là où il y a le déclic, peut-être éventuellement sur un malentendu, mais plus que sur un malentendu, c'est qu'après cette confrontation du très très grand contre le petit qui veut devenir gros, c'est surtout entre les deux matchs que ça se joue.
Mais peut-être aussi parce que finalement ce match aller, il le perd de 3-1 avec un troisième but marqué en toute fin de match, Alors qu'ils avaient été archi dominés, ils ne perdaient finalement que d'un but. Et c'est Alain Roche qui est expulsé et offre un penalty au Real Madrid, mais
qui fait une soirée.
Ouais, qui fait une soirée, c'est ça. Et en fait, tu peux aussi te dire, bon, on a pris le bouillon, on a pris un orage terrible pendant 90 minutes. Finalement, on perd que 2-1 sans la connerie de la dernière minute. Au retour, on est aussi tout à fait capable de le faire, rien qu'en faisant un meilleur match. Et c'est d'ailleurs ce que va demander au final Arthur Georges à ses joueurs. C'est ils ont perdu tellement de duels au match aller que rien qu'en ajustant cette jauge-là, en mettant plus d'agressivité, en remportant un peu plus de duels, en pressant un peu plus les Madrilènes, il y a cette possibilité de les mettre plus en danger. Parce qu'au final, quand on voit Ginola lors du match aller, il arrive à lui tout seul, parce qu'il y a quasiment que lui hein, sur le terrain, à créer des opportunités. On se rappelle de son but. Il y a aussi... il se fait sécher par Sanchez dans la surface. Il y a un pénalty flagrant qui n'est pas sifflé. Et d'ailleurs, ça... un des commentateurs, j'ai revu le match, j'ai revu des résumés, etc., pour voir comment ça avait été traité. Et je me rappelle plus quelle chaîne ou quel présentateur avait expliqué. C'est la règle du non pénalty au Bernabéu. En gros, on ne siffle pas un pénalty contre le Real au Bernabéu. Donc déjà à l'époque, on en parlait un peu de cet effet psychologique, mais clairement, ça montrait aussi que c'était largement jouable. Et rien qu'en ajustant la jauge des duels, il y avait cette possibilité de renverser un Real qui était bon, mais pas non plus hyper impressionnant.
Et surtout, sur ce match aller, la deuxième mi-temps, surtout des Parisiens, est bien meilleure. Donc je pense qu'ils restent aussi sur cette dynamique, et ça rejoint ce que dit Yannick. Ils prennent l'eau en première période, mais finalement, sur la deuxième mi-temps, ils font 1-1, dont un pénalty qui, à l'inverse, il y en a un qui n'a pas été sifflé pour eux, mais qui est un peu généreux sur la fin. Donc ils restent sur cette mi-temps où ils ont fait 1-1 à Madrid et ils se disent on va aborder le match retour avec sans avoir perdu et sans être disqualifié quoi.
Alors ce match retour justement, le PSG l'aborde en 4-4-2 avec Lama dans les buts, Sassus, Ricardo, Comboiré, Colletter en défense, Valdo, Le Guen, Guérin, Ginola au milieu de terrain et devant un duo Simba Ouéa. Le premier truc, Flo, et c'est Charles Bietri qui en parle dans la retransmission du match qu'on a pu voir, c'est que Simba et Ouéa n'avaient été alignés que 15 minutes ensemble avant ce match. Simba avait été titulaire une seule fois. Comment tu juges l'articulation de ce 4-4-2 sur ce match-là?
Bah, à vrai dire, c'est un 4-4-2 sur le papier, mais qui va vite basculer dans une sorte de système un peu asymétrique, parce que Ginola va rester sur son côté gauche et va faire très mal sur son côté gauche pendant tout le match. Mais à droite, Valdo va pas du tout rester à droite. Il va souvent rentrer dans l'axe. Il va parfois même aller à gauche. Il va se balader un peu sur tout le terrain pour faire le lien en fait entre les joueurs et apporter beaucoup dans des situations sous pression, etc., dans des petits espaces, alors que le côté droit va rester assez ouvert. Parfois Ouéa va y aller, mais assez rarement. Ça va être surtout pour les montées de Sassus, voire même de Guérin, qui va beaucoup se projeter. Et ce sont ces joueurs là qui vont apporter des choses dans les 30 derniers mètres sur cette aile. Et après, le duo Simba-Ouéa, c'est vrai qu'on va les voir très peu échanger, mais le PSG, on en parlera après, va tellement centrer que ce qui était important pour Arthur Georges, je pense, sur ce match, c'était d'avoir vraiment deux joueurs capables de placer une tête ou de finir le boulot dans la surface de réparation.
Mathieu, on parlait de l'ère Canal+. Au final, cette saison-là, il y a pas mal de titulaires qui arrivent, Lama, Roche, Guérin, Ouéa. C'est le début du PSG bling bling quoi. C'est en gros, on affiche des vraies ambitions avec un actionnaire qui donne beaucoup de moyens et du coup des joueurs très intéressants qui arrivent pour renforcer l'effectif.
Bah même, tu regardes entre l'été 91, je crois que ça doit être le premier été de Canal, et ce match de Coupe d'Europe, tu as Ginola, Fournier, Valdo, Ricardo, Le Guen, Colletter, Guérin, Lama, Ouéa, Roche, Sassus qui arrivent. Donc grosso modo, à part Bravo et Camboiré et Amara Simba qui revient de près d'ailleurs en 91 de Cannes, t'as quasiment que des nouveaux joueurs. Donc c'est une équipe qui a pas beaucoup de vécu commun, encore moins en Coupe d'Europe, parce que c'est leur première campagne européenne. Et pourtant, c'est une équipe qui va très bien voyager. Parce que je crois que les premiers matchs, ils vont à Salonique, où c'est l'enfer, et ils gagnent. Ils vont à Naples, ils vont à
Anderlecht aussi.
Anderlecht au Parc Astrid, où Camboiré marque. Donc c'est quand même trois gros déplacements pour une première épopée européenne. Et ils font deux victoires et un nul. Donc c'est une équipe, bizarrement, qui est vraiment une équipe de coupe. Et là, tu sens que sur le papier, avec le recul, c'est une équipe hyper impressionnante. Mais à l'époque, c'est pas des joueurs encore confirmés au niveau international. Tu vois, Lama, Guérin, Jean-Luc Sassus, Roche, Le Guen, c'est pas des joueurs qui sont vraiment établis. T'as plutôt Ricardo et Valdo qui sont vraiment des cadres de l'équipe du Brésil, qui étaient très bons au Benfica. Et bon, Ouéa qui avait fait sa carrière à Monaco, mais qui n'était pas encore le futur Ballon d'Or, parce qu'il est de 95. T'as Ginola qui arrive de Brest. En plus, il arrive au milieu de saison 91, après la liquidation du club. Donc, c'est des joueurs avec un fort potentiel, même s'ils sont plutôt âgés. Mais c'est une équipe vraiment qui est en train de se construire. Et je pense que ce match-là, c'est vraiment un déclic pour beaucoup de choses, pour le titre de champion de France qui va arriver un an après, pour les demi-finales qui arrivent, forcément la campagne de Ligue des Champions de 95. Mais c'est l'ossature de quelque chose, et je pense que ce match-là, ça crée quelque chose vraiment à la fois au sein de cette équipe, mais aussi au sein du club.
Je suis d'accord avec toi, c'est que l'ADN coupe du Paris Saint-Germain, pour moi, elle naît ce soir-là. Ça va faire, du coup, ils vont aller en demi, et pendant 5 années de suite, ils vont faire des demi-finales au minimum. Ils vont même faire 2 finales, 5 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives, ça s'est jamais fait pour un club français. Et l'ADN coupe du Paris Saint-Germain, c'est ce soir-là et c'est à ce moment-là. Avant, le PSG, ils ont pas de palmarès. Enfin, on l'oublie, mais ils ont deux Coupes de France, 82-83, et c'est tout.
Et un titre de champion.
Ils sortent un titre de champion, voilà, c'est ça. Un titre de champion et c'est tout. Donc, quand tu arrives avec 3 titres et une équipe avec un actionnaire comme Canal, etc., tu te dis, ah, c'est bizarre. Et c'est là qu'ils vont gagner après. Ils font, je crois, ils gagnent 7 ou 8 coupes sur les 5-6 années qui arrivent, dont une Coupe d'Europe, dont une finale de Coupe d'Europe. Et ça vient de là, en fait. Le Paris Saint-Germain a toujours, on dit toujours que c'est une équipe de coupe. Bon, là, évidemment, avec les Qataris, ils sont tellement au-dessus de tout qu'ils sont aussi une équipe de championnat. Mais le fait d'être toujours présent en coupe et de rester dans les coups et d'être dans cet éclat-là, d'être présent sur un moment, pour moi, elle naît ce soir-là. Et c'est globalement tout supporter du PSG sait que ton PSG en coupe va assurer jusqu'en 8e de Ligue des Champions. Après c'est bien compliqué.
Alors on passe au Real Madrid sur ce match. C'est un autre 4-4-2, un autre type de 4-4-2, 4-4-2 losange, avec Bouillot dans les buts, Nando, Ramis, Rocha, Laza en défense. Laza, ce qu'il faut noter, c'est Sanchez qui est absent, ouais, qui était le capitaine du Real, et c'est une absence qui va sans doute peser sur la défense du Real. Un milieu de terrain, Michel, Hierro, Luis Enrique. Donc là, il y a de l'expérience, des joueurs de qualité, du gabarit, de la course, il y a un peu tout. Un numéro 10, Prozinecki, et puis une attaque Butragueño et Zamorano. Donc là, si on enlève le côté défense où il n'y a pas vraiment d'énormes références ou de joueurs de classe mondiale, après au milieu de terrain et en attaque, on a quand même affaire à des joueurs hyper intéressants. Le numéro 10, c'est Prozinecki. Le petit focus sur lui, c'est que il arrive avec une étiquette de quasiment un des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie des campagnes européenne de l'Étoile Rouge de Belgrade, il fait partie de cette génération dorée, il arrive en grande pompe à Madrid qui paye une fortune à l'époque pour le recruter, donc il y a beaucoup d'attentes et malheureusement la carrière de Prozinecki qui va durer longtemps finalement dans le temps, mais jamais un très très haut niveau. Alors on se souvient beaucoup de lui à la Coupe du Monde 98, on se souvient de lui en Croatie, mais c'est vrai qu'à la fois au Real, ensuite à Oviedo, ensuite au Barça, en tout cas en Espagne, ça s'est pas toujours très bien placé, beaucoup de blessures, des prestations assez fades. Et justement, Flo, sur ce match-là, sa première mi-temps va être catastrophique. En fait, il rate à peu près tout ce qu'il pouvait tenter.
Ouais, même l'ensemble du match, je pense qu'il a eu beaucoup de mal à faire face à l'intensité qu'a mis le PSG dans la rencontre. C'est-à-dire que dès qu'il devait recevoir la balle, alors à la base, c'était le 10 de cette équipe, donc censé jouer un peu haut, vraiment en soutien de Butragueño et Zamorano. Sauf que dans cette zone-là, il se faisait toujours agresser, soit par Guérin, soit par Le Guen, qui était chargé de garder cette zone, mais aussi par Valdo, qui rentrait beaucoup intérieur pour continuer à agresser. Et quand je dis agresser, c'est vraiment agresser, quoi. Tu parlais de Colletter en début d'émission, mais entre Colletter, Sassus, Comboiré ou Ricardo, qui pouvaient aller au contact, notamment avec Zamorano, ou bien Le Guen, Valdo et donc Guérin, ça n'hésitait pas à y aller, ça envoyait pas mal de tacles, et je pense que c'est un joueur qui n'appréciait pas ça du tout, qui avait besoin un peu de temps pour pouvoir voir les choses et mettre en place le jeu de son équipe et organiser les attaques. Et du coup, on l'a souvent vu, mais très très loin du but adverse, genre à 40-50 mètres du but adverse, pour toucher des ballons en étant un peu tranquille. Et évidemment, dans cette zone-là, il ne pouvait pas forcément influer sur le jeu là où on l'attendait au départ, on va dire.
On va passer justement à ton menu tactique, Flo. Et la première chose qu'on a notée, et d'ailleurs ça a été dit lors de la retransmission de ce match-là à l'époque sur Canal avec Charles Bietri et Thierry Gilardi, c'est la supériorité dans le jeu aérien du Paris Saint-Germain, qui est clair, net et sans bavure. Si tu as les stats, tu peux les donner, sinon je les ai encore sous la main, pour montrer la supériorité dans le jeu aérien du Paris Saint-Germain cette saison-là.
Ouais, sur les buts marqués, ouais, c'est impressionnant. On avait fait un épisode, c'était sur Marseille-Lyon, le 5-5, Lyon-Marseille, pardon, où on avait évoqué le Marseille de 2010 en disant que cette équipe marquait énormément sur coup de pied arrêté. Et ils avaient marqué, je crois, entre 40 et 45% de leurs buts cette saison-là en championnat sur coup de pied arrêté. Là, le PSG, c'est encore plus impressionnant, ce PSG d'Arthur Georges. Parce qu'en Coupe de l'UEFA, avant ce match, ils ont mis 6 buts sur 8 sur coup de pied arrêté. Et en première division, cette saison-là, ils vont mettre 26 buts sur 47 au total sur coup de pied arrêté. Donc, c'est absolument monstrueux.
C'est monumental ouais, de faire ça.
Et donc, et en fait, dans ce match-là, face au Real Madrid, ils vont déjà en mettre deux autres sur coup de pied arrêté. Ils vont toucher une fois la barre par Ricardo en tout début de match, là aussi sur coup de pied arrêté. Bref, ils vont largement dominer le Real et en fait, leur plan de jeu va vraiment tourner autour de ça. C'est-à-dire que ça va être, j'en parlais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres, de Ginola, de Valdo, qui ont les pieds en plus pour donner de très bons centres, de Guérin aussi, avec Wea, Amara, Simba dans la surface. On centre, on centre, on centre. On met la défense sous pression. Et comme ça, en plus, on peut se projeter à beaucoup dans la surface adverse parce qu'on va mettre la défense en difficulté parce qu'on a cette supériorité sur le plan physique et on évite les pertes de balles. Du coup, on peut un peu se déséquilibrer parce que l'adversaire va être sous pression, va devoir gérer ça et va pas pouvoir se ressortir proprement pour nous prendre en contre-attaque. Et ensuite, évidemment, au-delà des centres, il y a cette supériorité sur coup de pied arrêté qui amène aussi d'autres occasions de but.
Il y a Comboiré qui explique qu'il travaillait ça tous les jeudis. En fait, tous les jeudis, ils se faisaient des sessions de coups de pied arrêtés et ils étaient genre tous les attaquants ou en tout cas les joueurs à vocation offensive sur coups de pied arrêtés. Ils faisaient ça, ils se mettaient dans la surface et Lama, il devait défendre quasiment tout seul. Il disait putain, je passais des jeudis de merde, mais finalement, c'est ce qui nous a aidé, notamment en Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment travaillé et c'est pour ça que c'est pas surprenant finalement qu'il marque autant et jusqu'à ce moment-là qu'on boirait quoi.
Alors au niveau des individualités, quasiment tous les joueurs parisiens font un excellent match évidemment, on bat pas le Real sans faire un excellent match. On voulait parler de deux individualités précisément, Ginola on a déjà commencé à en parler et c'est lié au match aller. Mathieu, quel souvenir tu gardes de Valdo qui était vraiment un petit milieu magicien, très technique et capable de dicter le jeu du PSG?
Bah, si je regardais, je garde deux choses en tête de lui. Déjà, la coupe de cheveux, un peu à la Lionel Messi. Et puis, il y a ce troisième but, cette fin de frappe où il enrhume Rocha avec sa moustache et sa coupe mulet, où c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Il fait vraiment, pour moi, s'il y a un mec à sortir de ce match, c'est lui, quoi. Il est sur les quatre buts, puisqu'il donne le ballon de but à Wea, il donne le ballon de but à Camboire sur coup de face arrêté. Je crois qu'il doit être dans le coup au départ du but de Ginola qui est magnifique d'ailleurs. Et puis il y a son but où il est exceptionnel, où il fait tout dans la feinte. Après, il a juste Bouillot. Et c'était vraiment un joueur d'une classe mondiale qui est peut-être passé un peu à côté des louanges parce qu'il n'avait pas.
Je suis assez d'accord avec toi. Les supporters et les gens ont du mal à se rappeler de qui était Valdo. On a beaucoup de Rai, on a beaucoup de Suzy,
Ginola et
tout machin, mais on oublie Valdo alors qu'il était là avant, que c'était un mec hyper expérimenté et que c'est un footballeur, mais extraordinaire.
Oui, c'est un dribbleur hors pair.
Brésil, enfin c'est il rate la Coupe du Monde 94 pour une blessure un peu comme Ricardo. Enfin c'est un international brésilien confirmé. C'était une star à Benfica. Benfica, elle est au début des années 90, c'est quand même une équipe qui fait des finales de Ligue des Champions, qui domine le Portugal. Enfin c'est un énorme coup quand il arrive au PSG. Oui, et t'as l'impression que c'est un peu c'est Vincent Guérin quoi, alors que c'est un joueur extraordinaire.
Très bonne comparaison. Vincent Guérin appréciera. Non, mais c'est vrai que le contraste est assez marquant entre Rai, qui est présenté toujours comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand pour certains joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, et Valdo, qui passe toujours un petit peu aux oubliettes, alors que c'est un vrai phénomène. Et tu parlais de sa carrière au Brésil et au Benfica, c'est aussi un vrai marqueur du joueur qu'il était et de cette capacité à déséquilibrer les défenses adverses sur une passe, sur un geste technique. Et on l'a vu d'ailleurs lors de ce match contre le Real.
Son troisième but, c'est typiquement ce qu'il faut montrer à tous les défenseurs. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est-à-dire tourner le dos à ton attaquant et Valdo, il le fait. C'est une masterclass de fin de frappe, quoi. Tout le monde peut regarder ça, à voir et à revoir. Même en sachant qu'il va faire ça, moi, je me retourne quand même, tu vois. En regardant le jeu, je me retourne quand même tellement il fait ça bien.
Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après.
Alors Flo, autre chose qui nous a marqué dans ce match au final, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherche d'équilibre dans le sens où les joueurs essayent d'aller très vite vers l'avant à chaque fois en fait, il n'y a pas de temps mort.
Ouais, il n'y a pas de temps mort, ça part très très fort déjà parce qu'en 3 minutes de jeu, il y a déjà 2 énormes, voire 3 énormes occasions de but. Une très grosse pour le Real Madrid par Butragueño qui est sauvé par Le Guen alors qu'il est dans les 6 mètres juste devant Lama. Et juste avant, il y a Ricardo qui en a une première parce que même sur les touches, j'ai oublié de l'évoquer, mais on parlait des phases arrêtées, mais aujourd'hui, on voit certaines équipes, notamment l'Atlético, en tout cas l'Atlético de Simeone avec Diego Godin, qui jouaient les touches dans les 30 derniers mètres. Il y avait toujours un des 2 défenseurs centraux qui montait pour essayer de mettre la tête. Mais le PSG d'Arthur Georges, en 93, le faisait déjà. Ricardo ou Comboiré, sur ce match-là, si vous le revoyez, ils montent et ils sont là pour jouer les touches longues, en fait. Et là, encore, mettre la pression sur... dans les airs sur la défense adverse. Donc d'entrée de jeu, il y a Ricardo qui en a une, Valdo en a une à la 3e minute, donc ça part très très fort. Et en fait, pendant tout le match, ça, oui, dès qu'il va y avoir un peu de champ pour un joueur, eh ben il va avancer avec la balle, il va aller vers le but adverse. Et ça, c'est vrai pour Ginola, mais c'est vrai aussi pour Colter derrière lui, c'est vrai pour Guérin, c'est vrai pour Valdo, c'est vrai pour Sassus à droite, qui va avoir pas mal d'espace pour exploiter son couloir. C'est aussi favorisé par le fait que le Real soit en losange. Donc, au milieu de terrain, il y a quand même des espaces à exploiter sur les côtés. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ouais, c'est un match qui va se disputer à un tempo très élevé, avec un PSG qui va vers l'avant, qui centre et qui met la pression sur la défense. C'est un Real qui, en face, en fait, on se dit, quand tu vois dans les premières minutes de jeu que Le Guen se projette, que Guérin se projette, avec les yeux d'aujourd'hui, tu te dis, attends, normalement, ça, c'est les 2 axios qui sont censés maintenir l'équilibre de l'équipe, etc. Et tu les vois finir en position d'ailier, envoyer des centres. Et le PSG réussit un petit peu à gérer ça parce que quand Le Guen monte, par exemple, c'est Colletter qui va rentrer un peu intérieur et qui va couvrir les transitions. Mais tu te dis, bon, ça peut pas tenir 90 minutes. Et en fait, si, ça tient 90 minutes et le PSG va au final, malgré ses envies de projection et son envie d'aller toujours de l'avant et parfois en grand nombre, va assez peu se retrouver dans des situations de déséquilibre. Je pense qu'il y en a 2-3 maximum sur le match. Donc le Real ne réussit pas forcément à en profiter. Et c'est aussi grâce, en grande partie, ou en partie en tout cas, on va dire à l'agressivité, hein, on va dire ça comme ça, des Parisiens à la perte de balles qui coupent les transitions dès qu'ils en ont l'occasion. Et quand je dis coupe, c'est pas un euphémisme, hein, coupe. Donc voilà, ils s'en sortent comme ça. Parfois, ça va être à la limite parce que en deuxième mi-temps, je pense que Sassus frôle vraiment le carton rouge, ou en tout cas le deuxième jaune, hein, pas le rouge direct. D'ailleurs, Arthur Georges va le sortir, je crois, à un quart d'heure de la fin, remplacé par Bruno Germain, je pense, parce qu'il sentait qu'il était vraiment pas loin de ramasser quelque chose. Donc, au final, ça s'est bien passé, ça a bien tourné. Mais le PSG a en fait mis beaucoup d'intensité et on va dire que l'aspect tactique, l'opposition entre 2 blocs, etc., ça a très vite volé en éclat pour une sorte d'enthousiasme et de...
C'est étonnant, c'est tout ce qu'on reproche aujourd'hui au Paris Saint-Germain. T'as l'impression que dans ce club de 93, enfin dans cette épopée, en 93, t'as un peu moins de talent qu'aujourd'hui. Mais voilà, tout ce qui manque du cœur, de l'envie, de la détermination, de dire fuck à la tactique, voilà, de dire fuck à la tactique s'il faut, de pas se prendre la tête outre mesure sur qui doit faire quoi ou comment. Il y a peut-être plus de spontanéité dans cette équipe de 93 que dans ce qu'on voit aujourd'hui. Après, tu peux pas comparer le football à l'époque.
Ouais, c'est pas la même position sur les.
Oui aussi, et puis Colter, s'il fait ce tacle-là en début de match, là, au bout de 2 minutes, en 2020, il sort.
Oui. Donc, il y a Ricardo aussi qui repart avec la cage thoracique d'un mec, je me souviens.
Avec Hierro, ouais, exactement.
Non, mais il y a une petite compilation.
Ouais, il y a pas mal de gestes un peu limites, mais... Ouais, Mathieu, du coup, c'est quoi cette équipe? C'est vraiment l'équilibre parfait entre, allez, on va dire les besogneux pour rester tranquille et les talentueux. C'est un vrai mix entre, pour les 2 phases, à la fois les phases défensives, les phases sans ballon et les phases avec ballon, avoir un peu plus de talent. C'est comme ça que tu vois ce PSG 93?
Bah, t'as aussi peut-être ce côté un peu, les mecs sont touchés par la grâce, quoi. C'est quand même, ce match-là, ça se trouve, il suffit que ça soit pas Valdo qui tire le dernier coup franc, ça part dans le mur ou ça marche pas et t'es éliminé. Et puis finalement, t'as des petits regrets. Là, pour une fois, t'as réussi à provoquer un peu la chance que t'auras pas en demi-finale, parce que même si tu tombes contre une très grosse Juve, tu te fais clairement voler au niveau de l'arbitrage, que t'as des pénaltys qui sont pas sifflés, etc. Mais ouais, c'est une équipe, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une équipe de charognards surtout, quoi. C'est une équipe de mecs qui est courageuse, qui rentre dans le buffet de type, ouais, t'as 4-5 Coupes d'Europe, Di Stefano, tout ça, et ben, je m'en fous, vas-y, je te rentre dans le buffet, quoi. Parce que tu regardes sur le papier, Sassus, Colletter, Camboire, Le Guen, mais en face, ils devaient se dire, mais c'est qui ces mecs-là, quoi. On les connaît bien, quoi. Et puis finalement, ben, c'est une équipe qui joue crânement sa chance et qui n'a pas peur. Ce qui est tout l'inverse de l'équipe d'aujourd'hui, qui est une équipe qui a peur de son ombre aujourd'hui. Et pourtant, t'as des CV sur le papier, mais ils ont peur de leur ombre, encore plus sur des allers-retours où tu dois faire un résultat au retour. Là, c'est une équipe que je sais pas si à l'époque, moi j'étais trop petit, mais je sais pas si à l'époque la presse les voyait vraiment condamnés ou si c'était ils vont faire l'exploit. Mais là, tu sens que c'est une équipe, dès le coup d'envoi, ils ont le couteau entre les langues et ils disent, vas-y, on va les défoncer, quoi.
Alors tu parlais de Comboiré dans les besogneux, dans les charognards. C'est un peu l'homme du match, parce que déjà il est aligné, parce qu'au match aller, Alain Roche a pris un carton rouge, qui était normalement le partenaire de Ricardo en défense centrale. Comboiré qui fait un très bon match dans toutes ses interventions, très sérieux, très appliqué, dur sur l'homme. Bon, ça on le sait maintenant, et ça explique aussi peut-être l'entraîneur qu'il est devenu. Et jusqu'au but de Zamorano, puisqu'en fait, il se fait prendre de la tête sur la remise du joueur madrilène pour Zamorano qui marque. Et moins d'une minute plus tard, c'est lui qui délivre le PSG en marquant de la tête sur le coup franc de Valdo. Yannick et Mathieu, c'est un peu l'homme de ce match, mais aussi c'est un peu l'homme de la compétition, puisque c'est lui qui avait déjà sauvé le PSG en Anderlecht.
L'homme de la compète, c'est un peu fort, je trouve, parce que Wea, tu vois, pour moi, il fait plus. Après, c'est celui dont on se souvient, parce qu'il fait cet exploit-là, à Anderlecht qu'il le fait. Et comme disait Mathieu juste avant, on est touché par la grâce. Et parce que Comboiré mette une tête à la 98e minute du temps réglementaire, ça n'existe nulle part, en fait. Donc oui, c'est l'homme pour ça. Il rentre dans l'histoire pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Mais en vrai, c'est pas grâce à lui, entre guillemets, qu'on arrive là non plus, quoi. C'était un peu le Kimpembe du PSG-Barça 4-0. C'est un peu une surprise de le voir à ce niveau-là, quand même.
Mais Comboiré, d'ailleurs, avait dit « C'est ma Coupe du Monde à moi, j'ai jamais revécu ça. »
Exactement, c'est ce qu'il dit.
De ce match-là.
Exactement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathieu, mais pour moi, c'est pas... Enfin, Comboiré, je l'aime pour ça, mais c'est pas un joueur... Enfin, c'est pas un des grands talents du Paris Saint-Germain, quoi.
Même, je trouve, par rapport à Presnel, c'est quand même le mec qui a été champion du monde international. Comboiré, il a tutoyé quoi, aller à Prime, ou peut-être il a dû faire une sélection, je me souviens plus très bien, mais ouais, c'est, mais après, ce qui est extraordinaire, c'est que son but, cette tête, il va la chercher, parce qu'il arrive vraiment derrière, il met un énorme coup de casse fouetté, qui va dans le petit filet, enfin, la tête, elle est belle, quoi, mais c'est vrai que si tu enlèves ça, et son but au Parc Astrid, de ses 5-6 ans au PSG, il te reste quasiment plus rien, quoi. C'était un peu le remplaçant numéro 1, le mec que t'envoyais jouer à Lens, à Brest, quand fallait mettre les mecs au repos. Mais c'était un mec de devoir. C'était un peu comme Colter. T'avais besoin, Cisco, Liasser. T'avais besoin de mecs comme ça à cette époque, parce que c'était une équipe quand même. Bah, déjà, t'étais l'équipe de la capitale. T'étais à Canal, donc t'étais un peu riche. Donc t'allais forcément te faire rentrer dedans. Et t'avais pas assez de mecs comme ça, je pense, dans cette équipe. C'est pour ça que les PSGOM, t'en as quasiment gagné aucun sous l'ère Canal, parce qu'en face, ils avaient du talent. Ils avaient aussi des immenses mecs qui mettaient des boîtes. Et au PSG, t'avais pas trop ça. T'avais plutôt des mecs qui aimaient pas trop qu'on leur rentre dedans. Et lui, c'était l'un des seuls qui avait ce répondant-là physique. Et puis, c'est un peu un timbré, quoi.
Et en termes d'émotion, Mathieu, en tant que supporter du PSG, comment tu places cette équipe par rapport à d'autres qui ont fait l'histoire du Paris Saint-Germain? Comment tu les places sur l'échiquier des équipes les plus sympas, ou celles qui t'ont le plus marqué, celles qui t'ont fait le plus vibrer? Quelle est la place de cette équipe de 92-93?
Après, c'est dur parce que ça dépend à quel moment dans ta vie tu rencontres cette équipe.
Ouais, évidemment.
Moi, j'avais 11 ans, c'est l'équipe de mon enfance. C'est, tu vois, ce match-là, j'ai regardé chez mes grands-parents. J'avais la VHS Euro-PSG que j'ai saignée au Maitre.
92-93, elle est magnifique. Elle est très bizarre. Pour ceux qui regardent, elle est disponible sur YouTube. C'est lunaire. C'est lunaire, ouais, comme présentation.
Dans la chambre. Enfin, c'est une équipe. C'est l'équipe de mon enfance. C'est ma Madeleine de Proust. Donc, c'est forcément une équipe pour laquelle j'ai énormément d'affection. sur laquelle je vois quasiment pas de défauts, parce que quand t'as 10 ans, 11 ans, bah voilà, c'est que des stars pour toi, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, Jean-Luc Sassus, pour moi, c'était Cafou. Donc, t'es déformé. Et aujourd'hui, j'ai le regard vachement plus critique sur l'équipe actuelle, alors que si aujourd'hui, j'ai 10 ans et je découvre le PSG, Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos, enfin, ou Ibra, tu te dis, mais c'est génial. Mais oui, dans mon cœur de mec qui a aujourd'hui 38 ans, c'est mon l'équipe Canal 92-95, c'est mon équipe préférée, parce que c'est celle où j'ai acheté mon premier maillot, c'est celle où j'étais la première fois au stade, j'avais les VHS, les posters, je me suis endormi sous Bernard Lama qui fait des parades en jogging. Enfin, c'est
les petites filles France Mondiale aussi.
Ouais, voilà, c'est l'équipe de mon enfance. Donc c'est une équipe que j'aime d'amour, tu vois.
Il y a l'aspect enfance. Bah, je rejoins Mathieu parce que je pense qu'on a le même âge sur l'aspect enfance. Et finalement aussi, c'est une période globale. C'est-à-dire que c'est pas juste cette année-là, c'est pas juste ce match-là, c'est que cette période Canal, on a vécu tous les ans des trucs dingues en Coupe d'Europe. Et à chaque fois, c'était presque plus intense que ce à quoi on pouvait s'attendre et s'imaginer, que ça soit en termes de scénario, en termes de résultats. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On met beaucoup d'attentes avant chaque campagne de Ligue des Champions. Et on a beaucoup de déceptions dès que ça rentre dans les phases finales. Là, à l'inverse, il y avait un certain romantisme, parce que dans le fond, c'était pas une équipe qui, même si elle avait des bons résultats, qu'elle a été championne pendant cette période-là, elle écrasait pas son championnat. Et par contre, en Coupe d'Europe, elle se révélait. Et des émotions comme celle-là, moi, en tout cas, le PSG ne m'en a pas fait revivre. Je pense qu'il y a une question d'âge, mais pas que. Parce que par exemple sur l'équipe de France, j'ai pris presque autant, voire plus de plaisir en 2018 qu'en 98. Donc c'est, il y a peut-être pas qu'une question d'âge. Je pense qu'il y a aussi une question de romantisme de cette équipe. Alors vous avez parlé de tacle de Boucher, mais il y avait quelque chose d'assez incroyable. Ce que dit Mathieu tout à l'heure, touché par la grâce, ce coup de tête, il est hallucinant. Alors certes, c'est sûrement le seul geste de Comboiré qu'on retient, et c'est sûrement pour ça qu'il passe encore plus à la postérité. Mais il est incroyable. Il est 6 minutes après le début des prolongues. Enfin, c'est, en termes d'émotion, c'était fou, et c'était le début d'une période d'émotion incroyable, parce que les saisons suivantes, le PSG continue à faire de grandes choses en Coupe d'Europe, que ça soit en C2 ou en C3. Et même en Ligue des Champions 94-95.
C'est là, en fait, c'est ce qui est fait, c'est que moi je suis un peu plus jeune que vous, parce que moi à l'époque j'avais 6 ans, donc je m'en souviens, mais que très vaguement, c'est après que c'est rentré, parce que j'ai été fan du PSG à ce moment-là, et donc du coup, c'est le parcours européen fait, et les épopées européennes fait que le club rentre dans ton cœur. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait moins de matchs de foot. Et donc, regarder un match de D1, ça n'avait peut-être pas autant d'importance que de regarder un match de Coupe d'Europe. Et en Coupe d'Europe, bah, tu avais ces équipes-là. Et comme je le dis souvent, c'est que c'était vraiment encore le côté un peu à l'ancienne. Les nations contre les nations, ce côté presque guerrier de la France contre le reste du monde. Donc, c'est pour ça aussi que ça touche vachement. Et qu'on est aussi nostalgique, tu l'as dit Pierre, d'une période. Je pense pas qu'aujourd'hui, là, comme ça, je te demande de me faire la compo de 93 versus la compo de 95. Il y a des joueurs qui ont changé, mais tu ne le sauras pas trop. Tu vas te souvenir du PSG de l'ère Canal, déjà on dit, et surtout du PSG de ces 5 ans-là, 92-97. C'est ce PSG-là dont on est fan, moi, et pour plein de raisons. Physiquement aussi, le maillot, etc. Il y a tous ces trucs-là, en fait, qui font qu'au fur et à mesure, on a idéalisé le passé. Et que ça se trouve, si on a cette conversation-là dans 20 ans, peut-être qu'on parlera du PSG de l'ère Qatari d'une autre manière aussi. Tu vois, il faut prendre le. Je pense qu'on idéalise vachement ce PSG-là, parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, l'équipe qu'a le PSG-là, et les moyens qu'ils ont, ils sont qu'une fois champions en vrai. Donc évidemment, ils gagnent les coupes, etc. Mais finalement, ils sont qu'une seule fois champions. Donc c'est pas si dingue que ça d'un point de vue bilan et domination du club.
Alors cette saison 92-93, elle est aussi marquée par, on parlait de jours heureux, de belles périodes du Paris Saint-Germain, mais c'est aussi nos jours heureux des clubs français en Coupe d'Europe, saison 92-93.
Ah, il y a un autre club en demi-finale, tu vas me dire, c'est ça?
Oui, alors déjà, l'OM remporte la Ligue des Champions contre l'AC Milan. Ensuite, le PSG.
C'est sûrement pour ça qu'on souhaite autant mettre l'attention sur le parcours du PSG cette année-là.
C'est possible. Le PSG est en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, donc après avoir battu le Real lors de ce match. Auxerre étant aussi en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, toujours après avoir notamment battu l'Ajax de Louis van Gaal.
Tu auras placé Auxerre dans cet épisode, bravo.
Mais Yves. Dans tous les épisodes, Pierre, sache-le, dans tous les épisodes, il y a un mot sur Auxerre. Pour avoir fait le bilan du coup des saisons allant de 90 à 95, donc ça fait 6 saisons en tout, lors de la première moitié donc de ces années 90, les clubs français, c'est quand même pour le Paris Saint-Germain une demi-finale de Ligue des Champions, enfin de C1, une demi-finale de C2, une demi-finale de C3. La GIA, c'est une demi-finale de C3. Monaco, une demi-finale de C1, une finale de C2. L'OM, une C1 gagnée, une finale de C1 perdue, une demi-finale de C1 perdue. On est quand même sur 9 demi-finales entre 90 et 95 pour les clubs français. Et c'est sans doute quelque chose qu'on.
Et ce qui est incroyable, c'est que pour reprendre ce que tu disais en début d'épisode, c'est qu'en plus, ces résultats-là ont lieu dans des compétitions dont les niveaux sont plus semblables à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'AC1 très costaud et ensuite deux compétitions de moindre mesure qui ont été affaiblies. Je pense qu'il faut le voir dans ce sens-là, c'est que la C2 et la C3 ont été affaiblies.
La C2 a
tellement été affaiblie qu'elle a disparu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était des niveaux plus élevés que ce qu'on retrouve aujourd'hui en Coupe d'UEFA. Et faire une finale de Coupe de l'UEFA à l'époque ou de finale de Coupe des Coupes était, à mon sens, plus glorieux que de faire une finale d'UEFA aujourd'hui.
À l'inverse, faire une finale de C1 à l'époque, c'était pas dingue. Et je dis pas ça parce que c'est l'OM, hein, même un peu. Mais c'est que, comme tu disais, hein, le niveau et le comment y arriver et la formule aussi, qui était très complexe en C1 versus ces Coupes d'Europe-là, où c'était de l'aller-retour classique à tirage intégral. Et donc, mais tout ça, c'était aussi avant l'arrêt Bosman. Donc c'était un autre football.
Avant l'arrêt Bosman et avant un football anglais qui devient aussi beaucoup... Enfin, même s'il gagnait beaucoup de titres,
il revient.
Le football anglais revient en
Europe.
Ouais, il est suspendu fin des années 80, début 90, ouais, exactement. Ça.
Okay. Il revient en quelle année exactement?
En 91, je crois qu'en Manchester, d'ailleurs Montpellier, en Coupe des Coupes, et ils vont au bout.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, Mathieu. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un petit truc marrant sur la compétitivité des clubs français en Coupe d'Europe cette saison-là. C'est Michel Platini, en fait, est consultant, enfin pas consultant, il est homme de terrain, ce qui est un peu étrange quand on connaît maintenant le rôle d'homme de terrain et la stature de Platini à l'époque. Il est homme de terrain Canal avec Bietri et Gilardi aux commentaires pour ce match entre PSG et le Real. Et Platini se livre à... une petite déclaration en expliquant que le football français n'a pas à rougir face aux autres championnats européens. Et il interpelle Bietri et Gilardi en disant « Vous savez ce qu'ils ont en plus, les autres ? Ils n'ont qu'un palmarès en plus. » Bon, après, il dit aussi 2 minutes plus tard que l'équipe de France va se qualifier facilement pour la Coupe du Monde 94.
Bah, en vrai, il n'a pas tort. L'équipe de France devait se qualifier facilement. En 93,
elle devait, mais elle ne l'a pas fait.
En 93, il ne peut pas prévoir l'arrêt Bosman. Et quand tu regardes les compétitions, est-ce qu'il faut... En vrai, il n'était pas loin d'avoir raison, Platoche.
Ah, bien sûr, bien sûr. Hormis sur l'équipe de France, oui. Sur la compétitivité des clubs français en Coupe d'Europe à ce moment-là, il est tout à fait dans le vrai, les résultats le montrent.
Même à la télé, le niveau était mieux, tu vois. Gilardi, Bietri, tu vois, Platini, ça envoie quand même, je trouve.
C'est vrai que ça fait un très beau trio. Alors, messieurs, avant de boucler cet épisode, on va passer au quiz, le fameux quiz.
Attends, Johan.
Pour vérifier. Oui, vas-y.
Non, c'est juste parce que, juste pour finir sur le match, une citation quand même de Denis Troche, qui était l'adjoint d'Arthur Georges. On avait quand même un duo en termes de moustache sur le banc de touche parisien. Mais qui résume, tu vois, là je vous écoutais parler du match. Mathieu a parlé de je sais plus, mais d'un match où tout se passait parfaitement. Pierre, c'était la même chose. Tout le monde réussissait ce qu'il entreprenait. Et en fait, Denis Troche a bien résumé ça. C'est une citation que Christophe Kuchli, qui est avec moi dans Vue du banc, a récupéré en bossant sur je ne sais plus quel livre. Mais donc Denis Troche qui parle de ce match-là et qui dit le match retour PSG-Real avec un scénario tout à fait étonnant mais qui quelque part était envisagé. On avait même pensé à la possibilité de faire l'impensable, c'est-à-dire éliminer le Real. Heureusement, ça arrive très souvent de faire des matchs références et là on se dit qu'on est intouchable, et c'est là que ça devient intéressant. Vous réussissez tout ce que vous tentez, les joueurs sont au diapason, c'est ce qu'on appelle le flow. Une fluidité totale dans les actions dont on ne sait pas combien de temps ça dure, comment ça se passe. On ne se pose même pas de questions car l'intuition donne la solution. On n'est plus dans l'action ou la réaction mais dans une anticipation fluide qui ne laisse aucune place à l'échec. Ça se fait tellement naturellement qu'on voit un ou deux coups à l'avance. Ça n'arrive pas souvent mais quand ça arrive, on s'en souvient. Et je pense que ça résume parfaitement ce PSG Real Madrid.
Et c'est vrai que c'est ce que dit Troche. Bah après, c'est aussi, ça va, on sent déjà le mec, il est de coach mental aujourd'hui, c'est ça?
Ouais. Toutes ces déclats, j'en ai récupéré d'autres sur Valdo et d'autres, mais dès qu'il fait une analyse ou quelque chose, tu sens de suite le côté préparateur mental, etc., dans sa vision des choses et dans sa présentation du truc.
Après, il raconte un dernier truc, juste sur Denis Troche, il raconte un dernier truc aussi, et je crois que c'est dans la cassette justement Euro PSG 92-93, il explique que, en fait, pour le match retour, le but de Zamorano, il dit à l'arbitre, ah, c'est bon, tu fais chier, c'est fini, et il garde le ballon. Et en fait, l'arbitre dit, ah ouais, si tu fais comme ça, bah, écoute, je te rajoute une minute de temps additionnel en plus. Donc, du coup, il rend le ballon, et c'est sur cette touche-là qu'il y a faute, et qu'il y a coup franc, et que Zamorano met le but. Et il l'a dit, après, il dit, putain, pendant très longtemps, enfin, pendant les minutes qui suivent, il me dit, putain, tout ça, c'est de ma faute. Si on m'en prend une action, c'est de ma faute. Et bon, finalement.
Mais c'est grâce à lui, parce qu'on marque à 6 minutes après la dans les arrêts de jeu.
Alors, messieurs, on passe donc au quiz autour de cette rencontre. On va faire un très grand classique, et puis il y aura même une question subsidiaire, parce que je pense qu'avec Mathieu, ça risque d'aller
mais
très,
c'est
très
déjà
vite.
Fini, mais on peut en parler encore 2-3 heures de ce
bien
match,
sûr.
Johan.
Mais je vous laisse libre. Hein, si vous avez d'autres sujets à aborder, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas faire ce quiz, on peut aussi faire sauter ce quiz, c'est comme vous le voulez, c'est libre ici. Alors, est-ce que vous pouvez me citer tous les joueurs ayant joué pour le PSG et le Real Madrid? Je vous ai dit, c'est un grand classique et après il y aura une petite question subsidiaire.
Le plus emblématique de tous, David Beckham.
Maria.
Di Maria, Beckham, c'est bon.
Anelka,
c'est bon.
Gabriel Heinze.
Ouais, Gabriel Heinze, c'est bon.
Areola,
exactement, c'est bon.
L'immense Ressé.
Ah oui.
Alors, peut-on considérer qu'il a joué sous le maillot du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas.
Il est même champion, là, encore cette année. Là. C'est incroyable. Il a joué une minute, il est champion. Un génie.
Tout ça, c'est
Makelele.
Makelele, okay. Exactement.
Las Diarra. Ouais.
Il vous en manque deux.
Attends, on va les trouver.
Ça va effectivement assez vite. Ça va assez vite. Bon, il y en a un, c'est un petit tweak, hein, je vous le donne, c'est Joaquim Agostinho da Silva.
Ah oui, Agostinho, bien sûr, évidemment.
Voilà, parce qu'il avait joué avec la réserve du Real, il n'a pas fait d'apparition avec l'équipe première, mais...
Ouais, donc...
Si,
ça compte, ça passe. Compte. Il vous en manque un.
Et de quelle période?
Si je te dis que c'est en ce moment.
Quoi?
En ce moment? Et il joue au Real et...
Ah bah Navas.
Évidemment. Keylor Navas.
Ah oui, Keylor Navas. Punaise.
C'est le petit trait de notre club et on l'oublie.
C'est ça. Et une question subsidiaire pour notre invité, Mathieu. Quel joueur espagnol a joué le plus de matchs sous le maillot du PSG, selon toi?
J'aimerais bien que ça soit Mikel Arteta, mais est-ce que c'est Tonton Cristobal?
Est-ce que vous avez une idée, Pierre, Yannick et Flo aussi?
Alors le premier qui m'est venu à l'esprit, moi, c'est Cristobal aussi. Mais j'en suis pas convaincu non plus.
Eh ben, moi, j'ai pas d'idée, là. Je vois pas... Il n'y a pas un piège, genre, de nationalité espagnole,
non,
il joue pour un autre pays.
Il n'y a pas de piège.
C'est pas Luis Hernandez, tu vois.
Non.
Je me sentais venir, c'est pour ça.
Eh ben, c'est bien Cristobal, 83 matchs. Et le Arteta, tu parlais d'Arteta, Mathieu est troisième avec 53 matchs. Est-ce que vous pouvez me citer les autres membres du top 5? Il vous manque donc le deuxième, le quatrième et le cinquième.
Tu vas avoir Bernat, non?
Bernat est deuxième avec 70 matchs, exactement.
Yuri Berchiche.
Oui, l'ami Berchiche, 32 matchs.
Et lui, tu vois, Berchiche, il était resté plus longtemps. Il était pas loin d'être une idole, hein, n'empêche, parce que tu vois, il avait un trait particulier, ce Berchiche. Typiquement, il aurait pu jouer en équipe de 90, Berchiche.
Il vous manque le quatrième avec 36 matchs.
Ouais, bah, Arteta, Barabia.
Tu as dit, Mathieu?
Sarabia.
Ouais, Sarabia, exactement. Oui. Sarabia, ouais. C'est donc Cristobal, 83 matchs, Bernat, 70, Arteta, 53, Sarabia, 36 et Berchiche, 32 enfin, matchs.
Pochettino a la nationalité espagnole aussi. Mais bon, on ne dira rien.
Ouais, mais une nationalité sportive argentine. N'essaye pas de tricher, Pierre. Ça ne marchera pas. Tu vas te faire flaguer par nos auditeurs directement. Merci beaucoup pour ce débrief, ce rematch PSG Real 93. Merci à Mathieu Faure, notre invité du soir. Merci Yannick, merci Pierre, merci Flo. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, rejouez.
Salut
ciao
à tous.
Salut, ciao.
Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
Once upon a time, a knight in shining armor slew a dragon while a princess was locked in a tower waiting.
Cool story, bro, but let us take it from here. Girl Tales is a kids' podcast of feminist stories for a new generation. Girls go on adventures, take risks, and become their own heroes. We've got new stories every Monday. Find Girl Tales wherever you get your podcasts and join the fairy tale revolution today.
Acast recommends.